Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, nous recevons Philippe Anu pour la présentation de son dernier ouvrage consacré au groupe Carte de Séjour, un groupe rock dans la douce France des années 80. Je crois que je me lasserai jamais, Philippe, d'écouter cette belle flûte en introduction de ce titre qui est mondialement connu maintenant. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Bonsoir Philippe et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir Florence.
Je vous laisse vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas.
Alors, en quelques mots, j'endosse mon costume d'historien de la mémoire, puis un petit peu d'ethnologue, ethnographe. Après avoir parcouru les territoires des montagnes du Vercors à la recherche des charbonniers italiens et d'un autre rapport à l'altérité dans des territoires qu'on présente plutôt comme essentialisés, avec une communauté rurale, une communauté de destin repliée sur elle-même. J'ai essayé d'ouvrir un peu la citadelle du Vercors à la figure de l'autre. Il m'a paru aussi intéressant d'aller labourer d'autres terres, celles des banlieues populaires. Et aujourd'hui, donc, je suis rattaché à une institution culturelle et mémorielle à Valence, dans la Drôme, bien que je vive en terre grenobloise, et qui s'appelle le Centre du patrimoine arménien. Donc, c'est la structure qui me nourrit et qui bénéficie d'un label du ministère de la Culture qui s'appelle Ethnopole. Et notre label s'intitule précisément à Valence « Migration, frontières, mémoire ». Et c'est à ce titre que j'ai la possibilité d'accompagner des programmes de recherche en sciences sociales sur ces thématiques qui sont au cœur de notre actualité et souvent instrumentalisées à des fins politiciennes. Et notre ambition à Valence, au Centre du patrimoine arménien, c'est d'interroger la présence de l'autre sous l'angle de la rencontre et pas du problème dit de société. Et c'est à ce titre-là que j'ai aussi pu mener cette enquête sur le groupe Carte de Séjour.
Bah justement, oui, on va en parler parce que... Sur la migration, il en est justement question dans ce livre. On va d'abord présenter votre dernier ouvrage consacré donc au groupe Carte de Séjour, comme vous le disiez, un groupe rock dans la douce France des années 80. Alors c'est aux éditions Le Mot et le Reste, c'est bien de parler aussi des maisons des maisons d'édition, je vais y arriver, j'ai du papier mâché dans la bouche. C'est une maison d'édition qui est basée à Marseille, je crois.
En effet.
Et j'invite les auditeurs d'ailleurs à se rendre sur le site internet de cette jolie maison d'édition qui est dirigée par Yves Jolivet. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre consacré à ce groupe en particulier?
Parce que ce groupe fait partie de ma mythologie personnelle. Alors outre les esthétiques musicales qui me touchent, ça relève de la subjectivité, de goût. En revanche, ils sont aussi rentrés dans ma vie par la petite porte. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de les découvrir sur scène lorsque j'étais étudiant.
Et, quelle chance !
Voilà. Et à cette occasion, je faisais un petit job d'été dans une usine dans la banlieue lyonnaise, à Villeurbanne. Et puis moi, j'ai passé mon enfance dans le massif du Jura, donc dans plutôt milieu rural. Je faisais un complexe du rural, découvrant la grande métropole lyonnaise. Et puis... Je cherchais des lieux comme ça, à la fois pour m'encanailler ou dans poétisation du quotidien. Et le soir, je vagabondais dans les rues de Lyon. Et puis j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de concerts gratuit ou accessible, disons, avec des stars de la pop mondiale. Voilà, j'ai découvert Iggy Pop à Lyon, j'ai découvert Carmel, etc., etc.
Oui, quand c'était encore possible.
Effectivement. Et puis un soir, voilà, de juillet 1987, il y a une grande soirée basée sur l'interculturalité, avec en invité vedette Carte de Séjour, mais il y avait d'autres artistes, hein, de la nébuleuse lyonnaise Jimmy Warid aussi, qui est un franco-algérien. Plutôt le James Brown lyonnais. Il y avait des musiciens de la région de Givor, il y avait des percussionnistes africains. Donc c'était un cocktail assez détonnant d'artistes dits de la diversité. Et puis il y avait une dimension un petit peu militante aussi à cette occasion de lutte contre l'avènement des pensées fascisantes portées par le Front National de l'époque.
Oui, qui commençait à bien monter. Et bien justement, on va en parler un petit peu. On va ouvrir un peu l'émission avec le premier titre qui a fait un peu parler aussi de Carte de Séjour, qui s'appelle Zoubida, et qui est un titre qui était sur leur maxi 45 tours, hein, si je ne me trompe pas. On va l'écouter tout de suite.
Zoom, 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 z
Radio Campus Grenoble 90.8, l'apérophonie de ce soir est consacrée au groupe de musique légendaire Carte de séjour avec notre invité Philippe Anu. Historien, anthropologue, on va parler de la genèse du groupe parce que Carte de séjour, c'est Rachita, bien sûr, qu'on ne présente plus. Je pense qu'il est quand même assez connu dans le monde, en France également. Mais c'est avant tout une rencontre avec Mokhtar Amini qui était à la basse et son frère Mohamed, guitare rythmique. Jamel, le batteur, dit Jess. Jérôme Savie est arrivé un petit peu plus tard. Bon, là, je suis en train de rentrer un petit peu dans les détails du groupe. Le groupe va tourner pendant 10 ans et ils amènent une nouvelle couleur dans l'histoire du rock français. On dit qu'ils inventent un genre, l'arabe rock. Bon, c'est une étiquette comme une autre. En France, on adore mettre des étiquettes. Carte de séjour a de fait donné une place à celles et à ceux que l'on dit de la deuxième génération. À l'époque, Lyon est une capitale du rock, peut-être en France, on pourrait presque en parler comme ça. Hein. C'est la Movida lyonnaise. Et ce groupe est né avec des jeunes issus de familles immigrées du Maroc et de l'Algérie, de la première génération, qui vivaient à l'époque à Rieux-la-Pape. Et je crois qu'ils se sont rencontrés en faisant du stop, d'ailleurs, les frères Amini et puis Rachita. Donc Rieux-la-Pape, qui était une des banlieues lyonnaises, qui fera peut-être le moins parler d'elle dans toutes les banlieues, à contrario de Vénissieux, de la Duchère, de Vouvelin. Et puis, autour, il y avait effectivement Givors, Saint-Étienne. C'était un terreau fertile de groupes rock lyonnais, Ganafoul, par exemple, Marielle et Garçon. Pourriez-vous nous en parler un petit peu, Philippe ?
Alors, en effet, il y a, dans le contexte des années 70, la diffusion des musiques rock un peu partout en France, jusque dans les territoires ruraux. Pour les jeunes filles et les jeunes gens de cette période-là, c'est un vecteur d'émancipation, c'est une manière d'être contre la musique à la papa, comme on disait à l'époque. C'est faire aussi la nique, alors d'abord au général de Gaulle, et puis ensuite à une certaine forme de France un peu poussiéreuse que peut incarner aussi Valéry Giscard d'Estaing avec son accordéon. Donc il y a ces avant-gardes qui se multiplient un peu partout. Et Lyon, qui était considérée comme une ville un petit peu, une belle endormie entre ces deux fleuves, un tout petit peu hostile au musique rock à travers ses élus, va se réveiller avec une immense créativité, alors avec deux polarités. Une polarité plutôt, alors on pourrait la qualifier, je mets bien des guillemets, de prolétaire, incarnée par des artistes qui pratiquent la musique rock pour en découdre avec l'ordre usinier. Donc en l'occurrence, plutôt des artistes qui vivent dans l'axe de la métallurgie ou des industries lourdes entre le sud de Lyon et la vallée du Gier, donc jusqu'à Saint-Étienne en effet. Et il y a une petite ville qui s'appelle Givors, de 15 000 habitants, qui cristallise ces désirs-là. Donc avec effectivement deux groupes, tête de gondole, Factory et Ganafoul. Factory, comme son nom l'indique, voilà.
Bah justement, on peut peut-être écouter un petit extrait là, de Ganafoul, juste pour voir. Alors bon, c'est pas le morceau que je voulais entendre, mais parce que c'est un live de 2022. Il est un petit peu plus endormi. Justement, on en parlait de Lyon endormi. Allez, vas-y, balance à la régie. Voilà, Ganafoul, ça faisait partie effectivement des groupes un peu incontournables. Alors, c'est vrai que la version de 1977, elle est un petit peu plus péchue quand même, mais bon, voilà.
Alors, eux, c'est vrai que c'est le Ivy Boogie Rock. Bon, le groupe culte enfin, à l'échelle hexagonale de cette période-là, bah, c'est Trust. Hein, donc, ils sont aussi porteurs des indignations de ces jeunes d'extraction sociale modeste. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans tous ces groupes givordins, il y a des fils d'immigrés espagnols, italiens et aussi du Maghreb, mais qui ne revendiquent pas une identité particulière, en tout cas qui s'exprimerait à travers la pratique artistique. Et c'est vrai que l'Artout de Séjour va provoquer une scission de ce point de vue-là. Et puis, dans le Lyon intramuros, donc le Lyon des élites culturelles, entre guillemets, des avant-gardes, eh bien, il y a des groupes alors, plus tournés vers la Factory de New York, proches de l'héritage des proches d'Andy Warhol, de Lou Reed, du Velvet Underground, de musique plus intellectualisante, de Patti Smith également. À valeur ajoutée poétique. Et parmi ces groupes, bon, il y a des têtes, des groupes phares comme Marie et les Garçons, par exemple, ou Electric Callas, dont les membres sont passés par les écoles d'art ou avec un certain capital culturel, pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu. Et Carte Séjour, ils vont se trouver pris dans ce flux, cette extrême créativité lyonnaise qui va les emmener très très loin.
Alors complètement. Je sais que à la base, on avait deux frères, les frères Amini, Mohamed et Mokhtar, qui vont vraiment être fans de guitare et qui vont répéter. Et je sais que Mohamed, il avait vraiment une rigueur très militaire, presque sportive. Et ils vont très vite trouver un local de répétition Place Tolosan à la Croix-Rousse. Et puis, il va y avoir la rencontre avec Bernard Meillet, qui va très vite devenir leur producteur. Alors, je ne sais pas qui a inventé ce concept d'Arabrock, si c'est lui ou si c'est venu d'ailleurs.
C'est difficile à savoir, rétrospectivement. Moi, je pense que ça vient de Meillet, parce que c'est quelqu'un qui avait une... Bon, c'était quelqu'un qui était à la fois un agitateur rock, comme on disait à l'époque, qui travaillait aussi dans les médias. Il faisait des piges pour Libération. Donc, Libération aime bien les concepts comme ça, un peu qui flashent, qui sonnent, les jeux de mots.
Aimait bien, oui.
Voilà, aimait bien. Et l'Arabrock, ça sonne. C'est un concept marketing aussi de génie.
Complètement.
Donc je pense que c'est plutôt Meillet. Mais bon.
Oui, et puis j'allais dire, tout va partir aussi de divers articles, notamment un article d'Elisabeth dans Actuel, Gérard Bar-David dans Best, un magazine de musique qui va publier un article sous le nom Lyon brûle-t-il. On a ensuite une première émission très rapidement qui va arriver, l'émission Mosaïque, et qui va les faire connaître en 1981.
En effet, c'est la première grande télévision. Alors, le seul problème, c'est que Mosaïque, c'est une émission donc dominicale qui est dédiée plutôt à la valorisation des cultures, des populations en exil en France. Donc, on est dans un univers de niche.
Oui. Hein,
c'est pas la maison, c'est pas l'émission rock que regardent les teenagers le soir. Donc, ils sont dès le début, et c'est le paradoxe un peu de la trajectoire de Carte de Séjour, ils sont un petit peu enfermés dans la culture des quartiers, la culture de l'immigration, dont ils n'ont de cesse de vouloir s'extirper. Et d'ailleurs, à l'occasion de ce premier passage à la télévision, il y a une mise en scène, alors malheureuse pourrait-on dire, je ne sais pas si c'est dans l'inconscient des journalistes, mais les décors de cette émission télévisée, c'est des voitures sur lesquelles on devine des impacts de balles. Donc ça renvoie, alors c'est octobre 1980, aux événements des banlieues de l'été chaud lyonnais de l'été 81.
Oui, complètement. Donc ils ont été catalogués et c'était le groupe qui était un peu associé aussi aux brûleurs de voitures.
Exactement. Et c'est pour ça que Gérard Bar-David dans Best, il fait un jeu de mots assez incroyable, parce qu'il intitule son article « Lyon brûle-t-il ?» Alors, ça peut être interprété de plein de façons, et ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, c'est il y a les incendiaires de voitures, il y a ces jeunes gens qui font une musique incandescente, donc on va considérer qu'ils sont incendiaires de l'imaginaire. Donc c'est le renversement du stigmate. C'est très très fin. Et puis il y a une troisième piste qui est à creuser, qui renvoie à une chanson culte des Clash, groupe phare qui a contribué aussi à la mythologie de Carte de Séjour, les Clash, London's Burning, et voilà, qui renvoie aussi à cette idée du punk rock comme musique qui vient secouer le cocotier dans les villes endormies.
Oui, et puis Joe Strummer, c'était quand même quelqu'un aussi qui était assez militant de ce côté-là et qui n'avait de cesse aussi de vouloir que les Blancs, les Noirs s'unissent, et surtout dans les bastions ouvriers, et d'essayer de faire porter aussi ses voix.
Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai que Rachid Taï, il va un peu aussi évoluer avec le groupe un peu de partout, notamment justement dans des émissions de radio. Je sais qu'il est, il me semble, DJ ou présentateur Radio Bellevue, par exemple, sur la Croix-Rousse. Et puis, très vite, il va y avoir aussi la rencontre, lors d'un collage d'affiches d'ailleurs, il me semble, il va y avoir une rencontre avec le mouvement de mobilisation Zarma de banlieue. Et ça, c'est un mouvement politique aussi qui va aussi les porter, puisqu'ils vont faire énormément, ils vont être invités aussi, mais ils vont faire énormément de concerts avec Zarma de Banlieue, un enchaînement de concerts et de concerts de soutien également, Rock Against Police, parce qu'il y a quand même beaucoup de meurtres raciaux à l'époque, en plein milieu des cités. Mais est-ce que cette démarche, elle a eu autant d'écho auprès de cette jeunesse de banlieue qui cherchait plutôt aussi à changer de conditions de vie, voire de lieu de vie?
C'est un paradoxe. C'est assez dur à saisir au plus près du terrain. C'est là les limites peut-être de mon enquête ou d'autres. Hein. Moi, j'ai lu aussi des travaux de sociologues pour documenter mon appareil critique. Les Zarma de Banlieue, du point de vue de l'énonciation, c'est extraordinaire parce que ce sont des jeunes femmes, donc toutes filles, d'immigrés majoritairement algériens, mais aussi quelques figures qui venaient du Maroc. Il y avait aussi des étudiants. Il y avait aussi des garçons, mais majoritairement, ce sont des filles féministes émancipées qui essayent aussi de dénoncer le conservatisme des familles immigrées et puis d'en découdre aussi avec les stigmates, les représentations négatives de leur groupe d'appartenance dans l'espace public. Et effectivement, elles appartiennent quand même à une petite élite. Et ce sont pas, c'est pas des militantes de quartier classique. D'ailleurs, la plupart d'entre elles n'ont pas grandi en banlieue populaire. Elles ont grandi, alors, certes, dans des conditions très modestes, mais plutôt proches de la ville-centre.
Et c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose, en effet. Et c'est vrai que carte de séjour, c'est un petit peu la même chose. Son public, il y aura quelques représentants, quelques amis des banlieues populaires qui vont les suivre. Mais majoritairement, leur public, il est soit composé d'étudiants, qui peuvent être des étudiants maghrébins. Il y en a beaucoup à Lyon à l'époque. Mmh. Ou des personnes qui sont engagées, des éducateurs de rue, qui peuvent être eux-mêmes fils d'immigrés. Ou des militants du monde culturel, de l'éducation populaire, ou des élites culturelles françaises.
Alors c'est vrai que c'est un groupe qui va commencer à avoir sa petite notoriété, qui dit notoriété dit également critique. Je me permets de citer une petite critique qui a un peu attiré mon attention. C'est le premier groupe arabe à le revendiquer, le rock, ce qui est bien, mais la démagogie si chère aux socialistes, étant étrangère à New Wave, nous trouvons ce disque banal. Il ne suffit pas de chanter arabe pour inventer le rock de la jeunesse arabe, car de ces jours demeure colonisé culturellement. Tout un programme.
Alors, cette formule comme ça, très péremptoire, elle émane d'un fanzine. Hein. Alors, les fanzines, je ne sais pas, peut-être les plus jeunes auditeurs, il faut resituer. Ce sont donc des petites productions artisanales qui sont faites, d'ailleurs, sur les campus, qui sont faites dans les milieux militants, en format papier. C'est vraiment le do-it-yourself. Hein. C'est très proche de la vague punk qui déferle sur toute l'Europe. Il y en a dans toutes les villes. Dans les lycées également. Alors des fois, il y a des pratiques d'écriture extrêmement nerveuses, comme ça, avec des jugements à l'emporte-pièce. Et là, en l'occurrence, ce fanzine-là, dont j'oublie le titre précis, c'est un fanzine parisien, porté par des jeunes gens proches des milieux des beaux-arts, extrêmement, qui doivent écouter Joy Division, New Order.
Un peu plus élitiste.
Très élitiste, et pour qui la musique de carte sur n'a absolument aucun intérêt, parce qu'elle est ancrée le reggae-punk, des choses qu'ils considèrent comme étant peut-être bas de gamme. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres fanzines vont leur répondre. C'est-à-dire que cette critique négative, c'est très intéressant. Elle va susciter aussi l'émoi dans d'autres productions de ces fanzines. Et on sent aussi qu'il y a des luttes de classement qui s'opèrent entre passionnés de musique.
Complètement. En tout cas, ça n'empêchera pas Carte de séjour de continuer ses concerts. Ils vont notamment faire... ça, je ne savais pas, je ne m'en rappelais pas en tout cas. Ils vont faire les premières parties du groupe Téléphone, qui a déjà un gros succès. Rachita, c'est une bête de scène, hein, il entraîne tout le monde. Et cette nouvelle starisation va entraîner justement quelques dissensions, notamment avec le batteur Jess. Pas seulement avec Rachita, mais aussi avec Bernard Meillet. Au goût de Jess, Bernard Meillet n'associe pas assez le groupe au choix des titres qui sont joués sur scène. Donc on va avoir le départ de Jess, qui va être remplacé après par Germain Troudard. Et puis on va trouver également Brahim au percu, Jalal Jalal au oud. Donc on a aussi un groupe qui se redessine.
En effet. Alors, au tout début, on est dans un collectif extrêmement nerveux qui est dans une frontalité punk rock avec cette matrice reggae aussi. Et puis à partir de l'arrivée de Jérôme Savy en 1982, qui est un artiste confirmé, qui est un excellent guitariste,
qui est passionné par Arsenic.
Arsenic, voilà, qui est passionné par les musiques latines également. Il va amener donc les loops, les mélopées arabisantes. Il est en capacité de le faire et donc il va déplacer aussi l'écriture musicale du groupe et amener donc cette, alors ça c'est très paradoxal, cette Méditerranée refoulée sans doute, hein, parce que lorsqu'on a 20 ans, il faut aussi penser que c'est un groupe en devenir, comme la plupart des groupes qui durent, carte séjour c'est une décennie, donc ils vont redécouvrir au fil du temps leurs racines, alors entre guillemets orientales ou maghrébines, et puis ce qui au début était un motif de refus, hein, ne surtout pas tomber dans la musique, les travers de la musique folklorique ou de la musique dite traditionnelle, petit à petit ils vont la revisiter, la retravailler grâce à l'appui technique de Jérôme. Et puis ensuite, effectivement, des musiciens comme Brahim Emsel, qui est un copain d'enfance des frères Amini, mais qui vient, lui, plutôt des musiques du sud, du Sahara, du Maroc. Il est proche de Nassel Riwan, ces artistes-là. Donc, il amène aussi d'autres formes. Et puis, Jalal Jalan, qui est un virtuose du oud aussi, qui rejoint l'aventure en 1984. Donc, petit à petit, alors aussi sous la houlette de l'ingénieur du son qui va produire l'album Rohomani, qui est Steve Village.
Steve Village, oui.
Un Anglais lui-même qui a fait des séjours dans les années 70 au Maroc et qui a ramené aussi une passion pour ces musiques du Maghreb.
Très bien, moi je propose, parce que le premier album va être conçu en 1984, qui va s'appeler Rohomani. Alors on redéfinit un petit peu les Roro.
Ouais. Alors, c'est une manière, Roro, bon, alors moi je ne suis pas arabophone, mais ce que j'en entends, ce que j'en comprends, Roro c'est Rouya, c'est le frère, le cousin, et Rohomani, c'est, alors, de manière un petit peu, en maniant l'autodérision, parce que Carte de séjour, c'est un groupe très ironique, en permanence, et il y a la chanson phare de cet album, qui s'appelle effectivement Rohomani, c'est qui a dit, les Roro, il y en a trop, donc les Arabes, il y en a trop, et les Kalouches, c'est louche, c'est-à-dire les Noirs, c'est louche. Donc, on voit bien, hein, c'est le stigmate, c'est la désignation de l'immigré comme fauteur de troubles, on le reprend, on le renverse et on va dire la Rohomani, c'est une danse joyeuse de ces Français pas tout à fait d'ici. Avec une rythmique très enjouée, qui invite à mettre le corps en mouvement à la danse. Et donc, cette Rohomani, pour moi, c'est à la fois, j'emprunte la formule à Bernard Lubat, c'est la dimension manifestive. Voilà. On manifeste joyeusement et on fait entendre sa voix de manière. Et c'est aussi une manière, je trouve, très subtile de se démarquer peut-être des pièges du mouvement beurre.
Eh ben, moi, je propose qu'on écoute tout de suite un titre de cet album Rohomani, Bleu de Marseille. Alors, moi, j'ai choisi cet extrait parce que ça m'a fait juste penser au groupe 113. Le titre me revient pas là tout de suite.
Tonton du Bled.
Tonton du Bled, merci Philippe. Mais effectivement, pour moi, il y avait un pont. Donc, on va l'écouter tout de suite.
Yeah.
Allez, de Marseille à Grenoble, il n'y a qu'un pas. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 ou sur campusgrenoble.org pour ceux qui nous écoutent sur les internets. Philippe Anou est avec nous ce soir pour parler de carte de séjour, pas du titre administratif, mais du groupe de musique lyonnais qui a enchanté nos oreilles lors de multiples concerts dans les années 80 et notamment au travers d'albums dont Roromanie 1984, dont on vient d'écouter un titre qui s'appelle Bleu de Marseille. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, il y a eu la rencontre avec Steve Hillage, qui effectivement a été sur la direction artistique de cet album. Et je crois que cette expérience du studio, qui était quand même assez rigoureuse avec Steve Hillage, elle n'a pas été super bien vécue, parce que Carte de séjour, c'est avant tout un groupe de scène en fait.
Oui, puis ils ont l'habitude de jammer, c'est-à-dire qu'ils tripent, voilà. Et ils se retrouvent dans le local, ils passent des heures. C'est quand même, ils bossent quand même comme des malades, hein, tous les jours, week-end compris. Ils sont au studio de 14h à 21h. Donc il y a les membres permanents, hein, le noyau dur, Rachid, Mokhtar, Mohamed et Jérôme. Et puis les musiciens additionnels qui les rejoignent en fin de journée après leur journée de travail. Et puis, donc, ils bossent beaucoup. Et puis, ils font tourner un magnéto, là, qui enregistre ces jams. Et puis, on part sur un petit thème de base, et puis un gimmick. Et puis, ça s'invente, ça se fabrique comme ça. Et quelqu'un comme Steve Hillage, qui vient de la musique plutôt savante, maîtrisée, et puis qui est apparemment, c'est un maniaque du son, un puriste. Donc, il lui fait retravailler, même les boucles sonores, le travail des pédales, des effets, etc., etc. Ce qui fait qu'ils ne sont pas habitués à cette forme de discipline, en quelque sorte.
Donc du coup, on va avoir cet album qui enfin aboutit et puis toujours un enchaînement de concerts. Il y a également des concerts en Algérie, les Beurs chez les Arabes. Parlez-nous de cette expérience que pas mal d'enfants de la première génération d'immigrés ont vécu chaque année.
Alors, c'était effectivement un rêve, je pense, que c'est Rachid de retourner. Bon, il a passé sa prime jeunesse dans la région d'Oran, hein. Sig, un petit village pas très loin d'Oran. Et il avait, je crois, ce désir de retourner là-bas avec sa casquette d'artiste. Et puis ses copains de cartes étaient également de l'aventure partant. Et donc, il y a eu une dizaine de dates programmées dans toute l'Algérie. Ce qui a été difficile... Alors, il y a plusieurs contraintes. Bon, il y a ce qui était devenu à cette époque-là le régime algérien, c'est-à-dire un régime policier. Donc, tout ce qui était musique licencieuse, quand bien même le rail était émergent en Algérie, bon, ça se passe dans des zones urbaines, des espaces interstitiels, etc. C'est très contestataire. Bon, les musiques rock donc, sont un petit peu encadrées. Et lors des concerts, alors il y a deux... Enfin, le Farid Boudjelal, qui est un auteur de bande dessinée reconnu, qui fait partie de l'aventure, donc qui va croquer ces moments de rencontre avec le public algérien. Et puis, j'ai oublié le nom du journaliste, ça me reviendra, qui est quelqu'un de connu aussi dans les médias rock. Et donc, ils font une espèce de carnet de voyage accompagnant carte de séjour dans leurs différents concerts. Et... Alors, c'est vrai que le moment, probablement, les concerts les plus intéressants ont lieu en Kabylie. On est à l'écart des grandes métropoles algériennes. Et en Kabylie, bon, bah, y a un peu plus d'autonomie, un peu moins de police. Voilà.
Donc, les
c'est Jacky Berroyer, pardon.
Oui, Jacky Berroyer. Mais c'est exactement ça, parce qu'en lisant le livre, je suis tombée sur son nom et je me suis dit, tiens, ce cher Jacky, il était là dès le départ, en fait. Quelle carrière ensuite. Donc ils vont enchaîner pas mal de concerts, une tournée en Allemagne avec une retournée un petit peu plus internationale. Et puis en même temps, j'allais dire d'un point de vue politique, il y a quand même aussi cette montée en puissance d'un côté du Front National, du racisme, il y a pas mal de meurtres raciaux. Et puis il y a ce premier concert, enfin en tout cas il y a ce concert à la Concorde où ce titre de Douce France va émerger.
Alors racontez-nous peut-être juste au préalable, pour moi il y a une césure qui s'opère entre un moment très très fort qui est le premier concert de clôture de la Marche pour l'égalité, donc en 1983. Donc on est le 3 décembre 1983, et il y a environ 100 000 personnes qui accompagnent les marcheurs qui sont partis de Marseille, qui sont allés jusqu'à Paris, en passant par Grenoble, d'ailleurs. Et c'est un moment festif de liesse, de reconnaissance publique de la figure de la deuxième génération, entre guillemets, c'est pas moi qui parle, hein, et de la figure du beurre. Et puis en même temps, c'est comme une promesse trahie par le pouvoir socialiste, parce que la revendication d'égalité, de justice sociale, elle passe au second rang, et on va un petit peu toiletter cette marche sous l'angle d'un antiracisme un petit peu gentillet, ce qui n'est pas du tout le propos des personnes engagées dans cette mobilisation. Et la première fois sur scène, donc, Carte de séjour interprète Nar, une chanson très sombre qui est la ballade du jeune immigré assassiné. Et un an et demi après, donc en juin 1985, il y a un mouvement très populaire, hein, qui va se diffuser dans toute la France à la vitesse de l'éclair, qui est SOS Racisme, qui a pour ambition de réconcilier les beurs et les feuges, comme on disait à l'époque, voilà, au nom d'un antiracisme un petit peu hors sol, un petit peu en résonance avec l'universel républicain.
Mais qui se rapproche un petit peu plus des cadres aussi du PS.
Tout à fait. Et Carte de séjour n'est pas dupe. Il n'y a pas que, il y a d'autres artistes aussi issus des écrivains, des metteurs en scène de théâtre, etc., qui vont se prendre leur distance avec le mouvement beurre tel qu'il est récupéré par SOS Racisme. Et donc, il y a ce moment incroyable du concert de la Concorde, le 15 juin 1985. Donc, il faut imaginer qu'il y a environ entre 300 et 500 000 personnes à place de la Concorde. Il y a tout c'est kaléidoscopique du point de vue de l'offre artistique. Vous avez de Jean-Jacques Goldman à Indochine Téléphone, Charlie Lee Couture, Bachung. Bachung, d'ailleurs, qui interprète une chanson extrêmement ironique. Il n'est pas dupe non plus, je pense. Quelques artistes britanniques et Steel Pulse, etc. Et puis Carte de séjour crée une performance, pourrait-on dire, en interprétant pour la première fois sur scène Douce France. Mais alors, entendons-nous bien, c'est pas une reprise, c'est un rap, c'est un détournement. C'est-à-dire que c'est une. Rachid. Apostrophe la foule. Alors, il commence à chanter a cappella. En imitant l'accent, ce qu'on appelle l'accent immigré, c'est-à-dire du vieux blédard, du Chibani.
Ah, il aimait bien avoir cette posture.
Exactement. Il revient à ma mémoire des souvenirs pas. Puis il chante faux exprès.
Oui. Et il harangue la foule, il leur demande si ça leur plaît ou pas.
Exactement.
Si on continue ou pas.
Voilà. Et puis il dit, on touche au patrimoine. Alors ça, c'est... Imaginons ce garçon de 27 ans face à une foule... gigantesque, prononçant ce mot patrimoine. Et effectivement, la Douce France de Charles Trenet, c'est un lieu de mémoire de la société française. Elle est inscrite dans le Panthéon et elle était un petit peu dans la naphtaline parce que Trenet, il avait été un peu ringardisé par les yéyés.
Complètement.
Et là, à ce coup, ils le sortent du formol, mais en même temps, ils le détournent complètement et ils en font. Alors, certains l'interpréteront comme un hymne à l'intégration, pas du tout le point de vue de Carte de séjour, c'est juste de se dire hey, les cocos, on est là, vous devrez compter à l'avenir avec nous. Donc c'est un petit peu comme quand Sex Pistols reprend God Save the Queen, version punk, quoi.
Bah justement, parlant des punks, c'est vrai qu'il y a d'autres mobilisations contre le racisme à ce moment-là aussi, avec des groupes comme Guernica, Ludwig von 88, Nuclear Davis, OTH, Parabellum, ou encore N-Brigade, et bien sûr, les Berruriers Noirs. Et j'aime bien cette formule que vous avez dans le livre, où vous dites, alors je cherche mes notes en même temps, mais que si Carte de séjour maîtrise la métaphore, Berruriers Noirs, eux, ils sont plus dans l'anaphore. Mmh. On va en écouter un tout petit extrait, là, tout de suite maintenant. Salut à toi.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'algérien, salut à toi le tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen.
Voilà, donc là on a un petit extrait des Berruriers Noirs, salut à toi. C'était juste pour avoir un petit peu cette couleur musicale de l'époque. On avait à la fois Carte de séjour et puis on avait à la fois ce type de groupe.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont porteurs des des mêmes valeurs, entre guillemets, des mêmes combats. Malheureusement, la rencontre s'est pas vraiment opérée, mais on peut l'expliquer aussi pour des raisons de sociologie. Hein. Quand bien même les militants alors du punk politique, ce qu'on a appelé le mouvement alternatif en France, sont-ils parfois d'extraction sociale modeste, la plupart d'entre eux sont passés par des parcours universitaires ou des écoles d'art ou les écoles du travail social. Donc ils ont un certain capital symbolique, alors que Carte est plutôt du côté, de par leur trajectoire, issue du monde ouvrier, et que les espaces de résonance de leur proposition artistique ne sont pas les mêmes. C'est vrai que Beru, c'est au départ plutôt l'univers des squats parisiens et en région, les scènes punk qui explosent un peu partout, y compris dans les villes moyennes, et les espaces où Carte de Séjour propose, c'est donc soit dans la mitance des quartiers populaires à travers des mouvements comme Rock Against Police ou Zahar Mat Banlieue ou d'autres, sont pas tout à fait les mêmes arènes. Même si je crois qu'il y a une estime réciproque, puis il y a des groupes qui font la jonction, comme N Brigade par exemple. N Brigade, ce sont des punks lyonnais très proches des Beru, hein, ils ont été sur le label folklore de la zone mondiale. N Brigade, ils vouent une admiration absolue pour Carte, mais c'est les petits frères. Voilà, il y a aussi un tout petit décalage dans le temps, qui peut expliquer, qui n'a peut-être pas eu plus de rencontres que cela, quand bien même ils sont sur les mêmes aires d'engagement.
Très bien, en tout cas, c'est vrai que ce titre Douce France, il va quand même pas mal bousculer les lignes. Il va être notamment, alors j'ai bien aimé cette anecdote, je ne m'en rappelais pas, mais il va être notamment distribué à l'hémicycle par Jack Lang.
Alors ça, c'est un coup politique de Jack Lang.
Mais on n'est que dans le politique à ce moment-là. Hein.
Bon, à ce moment-là, il y a c'est assez bizarre parce que là, on est vraiment très très loin de notre époque actuelle. Il y a une hégémonie culturelle de la gauche. Des médias comme Canal+, comme donc là on peut, quand bien même le président Mitterrand a-t-il été fragilisé et qu'il doit cohabiter avec un premier ministre de droite, en l'occurrence Jacques Chirac.
Bon, qui avec a, ses célèbres formules,
et qui a un ministre de l'intérieur extrêmement musclé, Charles Pasqua. Et donc Jacques Lang, le ministre culte de la culture de Mitterrand, qui a beaucoup contribué aussi à la légitimation des musiques populaires, des musiques rock, etc. partout en France, on peut discuter l'héritage de Lang, mais il y a au moins ceci à son actif. Jack Lang n'est plus que député d'opposition, et il y a un débat sur le code de la nationalité, remise en question du code de la nationalité en France, avec des associations militantes vent debout contre cette réforme. Et Jack Lang va faire ce coup politique d'interpeller ses pairs à l'Assemblée nationale en faisant distribuer les 45 tours de Douce France. Et non, mais vous voulez les renvoyer au pays supposé des origines, et puis mais regardez la valeur artistique de ces jeunes gens. Et bon, avec l'appui symbolique du groupe et la présence dans l'hémicycle de traîneurs. En revanche, les musiciens de Carte ne sont pas aux côtés du ministre à cette occasion. Ils se méfient aussi, comme la peste, de la récupération politique.
Complètement, d'autant plus que Jack Lang aura une formule un peu malheureuse, parce qu'il utilisera le plus fameux groupe Beurre de France. Donc ça enferme un petit peu, ça colle encore une étiquette. Mais c'est en plus Douce France, c'est le paradoxe. C'est ce qui propulse aussi Carte de Séjour à une super renommée en France. En même temps qu'il le stigmatise, parce qu'on enferme aussi le groupe en tant que groupe de reprise et plus comme groupe de rock.
Alors c'est vrai que c'est Jérôme Savy qui raconte ça, qu'à un moment, ils étaient moqués comme le groupe Douce France. Voilà. Alors il y a l'idée d'une trahison par leur public le plus, pas fondamentaliste, mais disons, celles et ceux qui aimaient cette marque de fabrique de chanter dans un arabe de quartier populaire, parce que le roro, c'est pas de l'arabe pur, c'est une langue métissée.
Complètement, mais en plus, il y a eu beaucoup, beaucoup de scènes.
Exactement. Et puis à côté, cette chanson, c'est dur à savoir en fait ce qui se joue à travers, parce qu'effectivement, d'un côté, on fait d'eux les ambassadeurs de l'intégration républicaine, ce qu'ils récusent totalement. Mais en même temps, ça contribue à leur renommée, c'est-à-dire qu'ils sont diffusés sur les charts. Tous les adolescents de France, à ce moment-là, connaissent Carte de Séjour. Alors qu'avant, ils étaient vraiment dans une niche très élitiste. Donc c'est un peu le paradoxe. Et puis c'est aussi le paradoxe des industries culturelles. C'est-à-dire qu'à un moment, les majors, Barclay avait senti le bon client. Se dit, là, c'est l'occasion de les faire monter, etc. Et de propulser aussi, peut-être, Rachid, dès ce moment-là, vers une carrière individuelle.
C'est vrai qu'ils ont signé chez Barclay, en plus.
Ouais.
Je voudrais qu'on évoque également un épisode, personnellement, qui m'a choqué. C'était une ratonnade qui va se dérouler en avril 87 sur les pentes de la Croix-Rousse par un groupe d'extrême droite. Puis la cérémonie qui a été organisée par l'adjoint au maire de Lyon pour mettre à l'honneur le groupe qui a reçu le célèbre bus d'acier. Racontez-nous l'anecdote de Rachid Taha qui remet un petit peu en place, avec tact mais fermeté, l'adjoint au maire.
Alors, Il y a un concours de circonstances, c'est concomitant. Jean-Marie Le Pen et son grand allié lyonnais, son bras droit lyonnais, Bruno Gollnisch, lors d'un meeting au Palais des Sports de Gerland, en appel au nettoyage des quartiers ethniques. Bon, formule de l'époque.
Oui, donc Sarkozy n'a rien inventé.
Voilà, hein. Exactement. Ben non, il s'est même inscrit dans l'héritage de cette diatribe. C'est-à-dire ces formules à l'emporte-pièce et ils invitent au passage à l'acte. Il se trouve que la Croix-Rousse, qui est un quartier, donc, comme on l'a dit, multiethnique, intergénérationnel et puis contestataire, il y a donc effectivement une ratonnade. C'est le terme qu'utilisent un certain nombre de grands médias, dont Libération, Le Monde également, donc des nervis du Front National avec des barres de fer qui vont casser les vitrines de commerce dits ethniques, qui vont aussi en découdre avec les anards. Donc il y a des bagarres, comme ça la police intervient. Et il y a même quelques personnes qui sont blessées, dont un ami des musiciens. Alors, on est en avril. Et puis, quelques jours plus tard, le groupe est invité à Paris et récompensé du bus d'acier. Alors, quand même, devant des groupes phares de l'époque, Rita Mitsouko et Limi Deros. Rita Mitsouko, c'est pas n'importe qui. Donc, ça place vraiment, ça consacre carte de séjour dans le panthéon des musiques avant-gardistes françaises de l'époque. Et donc, ça fait d'eux des dignitaires, des notables, pourrait-on dire, à valeur ajoutée artistique. Et ils sont invités à une cérémonie par la ville de Lyon, qui reconnaît ces enfants terribles, en quelque sorte, qui est au contraire. Et là, Rachid se permet ce petit pas de côté, qui est retranscrit fidèlement dans le monde. C'est assez intéressant. Donc, cette cérémonie dans la grande salle d'art contemporain, Les Lacs, en présence de l'adjoint à la culture du maire de Lyon, et qui dit, voilà, Lyon est une ville cosmopolite, nous sommes ravis de vous accueillir. Et puis là, il dit oui. Alors, il y aurait d'un côté les bons arabes de service qui viennent manger les petits fours dans les salons bleus des administrations, et puis ceux sur lesquels on tape dans les rues. Et ça provoque forcément une réponse un peu improvisée de l'élu qui dit « Oui, mais Lyon est une ville ouverte à l'autre depuis la nuit des temps. Voilà, les premiers saints chrétiens eux-mêmes étaient persécutés, on les a accueillis, etc. etc. » Donc il est contraint de faire de Lyon une ville cosmopolite. Je trouve ça très intéressant. Et c'est cette liberté absolue dans sa relation à la prise de parole et à l'autre, cette interpellation des autres, ça va être la marque de fabrique de Rachita tout au long de sa carrière.
Complètement. Alors, il y a un troisième album qui est en préparation. Le troisième album, dont le titre, je le remets pas.
Deux et demi.
Deux et demi, voilà, exactement. Donc, le troisième album, Deux et demi, avec Don Vass, qui était notamment bassiste du groupe Détroit et ancien producteur de Bob Dylan.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Disons, le producteur de l'album... Deux et demi, c'est un Anglais qui a travaillé avec Bachung, son nom va me revenir. Ah, et Don Vass, il est pressenti pour le futur album.
Ah, d'accord. Voilà.
Celui d'après, et en fait, c'est lui qui va être en fait l'ingé du son du premier album solo de Rachid, Barbès.
Alors ça, c'est vrai que ce troisième album, Deux et demi, j'ai l'impression qu'il a un peu accouché dans la douleur.
Ben on sent déjà que il y a Douce France, il y a le fait que le groupe dès qu'on est célébré, il y a de nouvelles difficultés qui s'installent, c'est-à-dire peut-être aussi la guerre des égos, la starisation, ça veut dire aussi c'est pas du tout spécifique à Carte de Séjour, les grands artistes de renommée internationale. Bon, il y a un très bel essai de Lydie Salvert consacré à Jim Hendrix qui montre ça, comment les majors fabriquent les artistes, les font monter, puis aussi les détruisent, hein, avec la cocaïne, etc. Donc c'est peut-être le volet sombre de cette histoire, entre guillemets, mais qui n'est jamais qu'une situation partagée par nombre de groupes de l'époque. Mais en même temps, paradoxalement, au moment de la sortie de Deux et demi, il y a aussi une véritable reconnaissance européenne pour le groupe. Ils sont même davantage reconnus. Alors, on parlait tout à l'heure rapidement de l'Allemagne, mais également de l'Espagne, de l'Italie. Ils font des concerts où ils mobilisent les foules à Bologne, à Turin, à Barcelone. C'est assez exceptionnel. Et puis, il y a aussi ce petit concert à New York, quand même, qui n'est pas anodin. Donc, il y a une reconnaissance européenne au moment où, effectivement, il y a une forme d'usure, peut-être, dans le domaine français.
En tout cas, il y a quand même une petite symbolique, c'est que le groupe est en concert à Berlin en novembre 89, au moment de la chute du mur, et ça va être aussi un peu la chute du groupe.
Ouais, c'est assez paradoxal, ce moment-là. Le pays européen qui a vraiment le plus célébré la musique de quartier séjour, c'est incontestablement l'Allemagne. Hein, 5 dates à Berlin entre 85 et 89, chaque fois les salles sont combles. La presse allemande est dithyrambique, à tel point que un certain nombre de journaux disent voilà, la musique de l'avenir, c'est quartier séjour. Ils qualifient leur musique d'ethnobeat. Bon, c'est, on pourrait dire world music ou sono mondial si on était français. Et effectivement, ils rencontrent vraiment le public allemand. Et au moment de cette réconciliation des deux Allemagnes, Carte de séjour incarne la possibilité d'un rêve européen. Et puis en même temps, c'est la fin de cette aventure collective. Le tout dernier concert, il aura lieu à Berne, hein, quelques semaines plus tard,
en Suisse,
voilà, 1989. Officiellement, le groupe n'est jamais dissous, mais il y a des dissensions internes. Et puis Rachid va voler de ses propres ailes.
Effectivement, c'est vrai qu'il fait déjà pas mal d'allers-retours un peu sur Paris. Il se sait de toute façon qu'il va commencer à préparer sa carrière solo. Et je propose là, pour terminer un petit peu, qu'on écoute Écoute-moi camarade de l'album Diwan 2. C'est un album que personnellement j'aime beaucoup et j'avais envie d'écouter ce titre.
Écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant.
Ah, on est obligé de couper Rachita, on passe du bon temps, Philippe, sur ce plateau, en fait. Là, c'était juste pour boucler sur la carrière solo de Rachita, qui a connu la carrière qu'on connaît, qui a connu la renommée qu'on connaît. Alors maintenant, il ne se passe plus du tout une soirée sans qu'on entende le mythique titre « Yar Yara », qui a été d'ailleurs une reprise de Daman El Arachi. Excusez-moi pour l'accent. Je voulais juste dire, traduire les premières paroles. Ô toi qui t'en vas, où que tu partes, tu finiras par revenir. Combien de pays surpeuplés, de régions désertes as-tu vu? Combien de temps as-tu gaspillé? Combien as-tu en perdre encore? Et que laisseras-tu? Ô toi l'immigré, tu ne cesses de courir dans le pays des autres. Voilà, on a passé un temps très, 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 très fourni à tes côtés, Philippe. Merci, en tout cas. On se rend compte en écoutant et surtout après la lecture du livre à quel point l'histoire ne fait que se répéter. Pour autant, côté musique, quelle analyse aurais-tu aujourd'hui sur ce contenu musical grâce aux plateformes, par exemple, sur cette jeunesse bien née en France, issue de la deuxième génération d'immigrés?
Ouais, compliqué.
Compliqué, puis c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais...
Alors c'est quoi directement la question des héritages, par exemple, ou de...
La question des héritages, et puis c'est vrai que maintenant, on a une plateforme. Avant, il y avait la scène, effectivement, ouais, c'était brut. Ouais. Et puis maintenant, on a les plateformes qui explosent.
Alors, Moi, j'ai l'impression que le rapport à la musique ne cesse de se réinventer. Je suis plutôt quelqu'un de ce point de vue-là optimiste. C'est-à-dire que quand bien même les esthétiques musicales circulent-elles autrement, elles sont, elles sont partagées dans le cadre de fêtes. Donc, et ces musiques qui ont peut-être été mises un petit peu au banc, bon, ces musiques dites orientalisantes, les musiques arabes, etc., se réinventent, sont travaillées par des musiciens électro, redistribuées, et que je pense que l'héritage de Rachid ne cesse de se réinventer. À Lausanne, en Suisse, il y a un jeune artiste helvético-marocain, Salmi Galbi, qui fait des choses qui résonnent très fortement avec Rachid Taha.
Eh ben, très bien. Philippe, on te donne rendez-vous le 7 décembre à 14h à la Cinémathèque de Grenoble, dans le cadre des films de la Villeneuve, où tu seras invité, si
c'est
on
ça.
Veut te retrouver.
Oui, en effet.
Effectivement.
Ça va être un moment très très fort et on pourra écouter de la musique.
Ah bah c'est parfait, justement. Alors cette émission est réécoutable sur campusgrenoble.org. Je te remercie de nouveau, Philippe, d'être venu. Je remercie également Radio Campus. Je remercie la technique. Merci Zoé. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous, j'espère, très bientôt, et aux côtés notamment de Carte de Séjour et de Rachid Taha. Merci beaucoup.
Merci,
à très
au revoir.
Bientôt.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !